Une production, les podcasteurs.
Bienvenue dans mon podcast. Je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilybarbery.com. Et puis, si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilybarbery.tv. C'est parti. Alors, peut-être que vous allez pouvoir vous trouver un support, le rebord d'une chaise. Moi, je suis sur un petit fauteuil aujourd'hui. D'habitude, on enregistre dans les locaux des podcasteurs, mais là, je suis dans le Finistère, donc on va essayer de s'inspirer des éléments qui sont autour de nous pour méditer ensemble. Donc peut-être le rebord d'une chaise, ou peut-être que vous pouvez vous mettre en tailleur, fermer les yeux et puis étirer la colonne vertébrale. Essayez de vous grandir, de prendre conscience de votre dos, de votre souffle, de prendre juste quelques instants avant de vous mettre à écouter pour ressentir votre corps, ressentir votre respiration telle qu'elle est sans chercher à la changer. Peut-être que vous sentez des tensions à certains endroits de votre corps. Notez-les sans rentrer dans la tension, sans rentrer dans l'histoire qui expliquerait le pourquoi du comment. Relâchez les pourquoi et juste observez, regardez. Comme si vous étiez un drone qui tourne autour de votre corps. Notez les zones détendues. Et tout en maintenant un effort dans les muscles qui maintiennent votre dos, pour continuer à vous grandir sans lever les épaules vers les oreilles, profitez du souffle. Et puis pour une fois, on va respirer par la bouche uniquement, on le fait assez rarement. Mais là, je vais vous demander de respirer par la bouche, de faire un petit O avec votre bouche et d'inspirer tout doucement de l'air. Et d'expirer tout doucement, un souffle très lent, comme si vous étiez en train de souffler de la buée sur une vitre. Le plus longuement, le plus lentement possible, vous êtes en train d'imiter le son du vent. Un vent persistant, un vent lointain, un vent qui n'est pas à sa toute puissance, bien sûr, mais qui est permanent. Laissez cet air venir ouvrir les alvéoles de vos poumons et peut-être, si vous le pouvez, imaginez que vous avez à la surface de la peau des fenêtres, des volets. Et avec cet air que vous soufflez toujours par la bouche, que vous inspirez par la bouche et que vous expirez par la bouche, et ce son, vous venez ouvrir chacun des volets imaginaires que vous avez à la surface de la peau. Continuez encore en essayant d'étirer ce souffle et de rendre ce vent bienveillant, de lui permettre d'aérer votre esprit, vos idées, de permettre de desserrer ce qui est serré dans votre corps, d'ouvrir encore les volets les plus verrouillés. Et puis à présent, je vais vous demander d'inspirer par le nez, de retenir le souffle. Retenez, 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 gardez tout l'air dans vos poumons et expirez par le nez. Voilà, alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être dans un endroit particulier qui s'appelle La Butte, avec Nicolas, qui est le chef et aussi le copropriétaire de cet endroit. Pour une conversation au sujet de la transformation, la tienne d'abord, ta transformation, et puis ensuite la transformation qui est exigée en fait par notre époque. Est-ce que tu peux me présenter aujourd'hui le métier que tu fais, parce que c'est vaste, tu es à la fois chef, mais tu diriges une entreprise, il y a un grand nombre de personnes qui travaillent ici dans cet endroit, qui est à la fois un restaurant, un hôtel, un spa, une boulangerie. C'est vaste, raconte-moi un petit peu ton métier aujourd'hui.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai différentes facettes, différentes casquettes au quotidien et tout au long de la journée. En fait, ça change de 7h le matin jusqu'à 11h ou minuit le soir. Mais j'ai pas envie de me qualifier de chef ou de patron ou de chef d'entreprise. Ou j'utilise souvent le mot accompagnateur, en fait. Je suis là avec mes équipes au quotidien pour donner une direction. Pour faire un état des lieux au quotidien, parce que le quotidien change, que ce soit ce qui nous vient de l'extérieur ou nous à l'intérieur, parce qu'on change aussi au quotidien. Donc je suis là un petit peu comme un guide, un accompagnateur, de manière à veiller à ce que les choses se passent avec le plus de bienveillance possible, avec tous nos collaborateurs, et puis à fixer cette ligne quand même que l'on se donne tous, en laquelle on croit tous, qui est de s'engager pour quelque chose aujourd'hui de différent.
Donc, cet endroit où on est, c'était la maison de tes beaux-parents.
Oui.
La mère de ta femme a fondé ce lieu dans les années 50.
Alors, c'est la grand-mère.
Ah, c'est la grand-mère.
C'est Jeanne Yvonne, c'est d'accord. La grand-mère de Solène qui a fondé ce lieu en 1952, plus exactement. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu ses parents, donc Hervé et Yvonne qui ont repris aussi, deuxième génération.
D'accord.
Et puis nous, troisième génération. On est arrivé en 1999, et puis en 2006-2007, on a pris la décision d'acheter cet établissement et de continuer belle aventure.
Donc, ce lieu, il était très différent il y a encore peu de temps. Il continue, il est en permanence en transformation, parce qu'il est quand même assez grand. Il y a combien de chambres dans cet hôtel ?
On a 33 chambres aujourd'hui.
33 chambres, donc c'est quand même un espace assez conséquent. Et il a longtemps été une salle de bal, où il y avait à la fois des mariages, des guinguettes, des concerts. Donc, un espace assez festif et pensé pour la fête.
Oui.
Et aujourd'hui, en fait, il a quand même beaucoup évolué, puisque ton objectif, on voit bien dans la cuisine que tu proposes, que c'est la santé et le plaisir pour un accueil, en tout cas, qui va permettre peut-être aux clients qui passent ici d'avoir envie de mieux se nourrir ou d'être plus en contact avec eux-mêmes, j'ai l'impression.
Complètement. C'est prendre soin de soi. S'arrêter, se poser, savoir prendre soin de soi. Et en même temps, de prendre soin de soi, c'est prendre soin du lieu où on s'est arrêté. Et quand on parle du lieu, je ne parle pas forcément que de la maison, mais des champs qui sont au bord de nous, de la plage, de la mer, de tous les acteurs qui sont autour de nous. Donc, c'est faire ce voyage, se poser quelque part, poser ses valises dans le but de se faire du bien, mais tout en faisant du bien aussi à ce qui nous entoure.
D'accord. Donc, toi, ce qui m'a vraiment intriguée dans ton parcours, c'est ta transformation personnelle, parce que tu as eu un moment d'éveil finalement pendant le confinement en 2020, avec une prise de conscience que tu pouvais plus continuer à prendre soin de ta santé comme tu le faisais jusqu'alors.
Oui.
Et ça a été quoi le déclic en fait ? C'est cette période de Covid où vous avez été inactif ? C'est quoi exactement ?
Alors, juste avant le Covid, c'est vrai qu'avec Solène et les enfants, on a beaucoup voyagé. Et on a beaucoup voyagé en Asie, juste avant le Covid. Et puis, j'ai eu un petit peu comme un... Alors, c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais je vais l'utiliser quand même. Un petit peu comme un dégoût, en fait, de trop voyager, dans des zones touristiques, de voir ce que, en fait, le voyage, le tourisme, pouvait générer comme perturbation, que ce soit au niveau des lieux
à cause
protéger,
du monde,
à cause du monde, à cause de la consommation, à cause de la pollution, à cause de tout ça. Et puis cette masse de personnes sur des mêmes destinations, tout ça. Et puis en plus, on plonge un petit peu avec Solène, la dégradation des fonds marins, tout ça, ça m'interpellait beaucoup. Et puis est venu ce Covid. Arrêt sur image pendant quelques mois. Et puis j'ai tout de suite, dès les premiers signes, c'était au mois de mars, je me souviens, dès les premiers signes d'arrêt, je me suis dit, ben moi qui suis tout le temps chargé d'énergie, en train de courir toute la journée, je pouvais pas m'arrêter comme ça. Et il me fallait quelque chose de motivant. Il me fallait un but. Il me fallait autre chose. Et puis j'avais cette peur de me retrouver sans rien faire. On a continué à travailler un petit peu dans la maison, mais en même temps, je me suis dit, ben Nicolas, c'est le moment de t'arrêter, de faire une pause, et puis peut-être d'imaginer autre chose pour toi. Et ça a d'abord été une peur physique. J'ai eu peur, pendant ce Covid, de mal me mener. Peut-être de grossir, peut-être de rien faire, de ne pas faire de sport, peut-être de perdre une santé physique. J'ai vraiment eu peur de ça. Et du coup, je me suis mis à faire du sport.
Fait mes méditations.
C'est ce que j'allais te dire. Je me suis mis à faire tes méditations. Et à les suivre.
Donc, il n'y avait pas que des femmes derrière le écran.
Non, il n'y avait pas que des femmes. Je me suis mis à faire de la cuisine à la maison végétale, sans sucre, quelque chose de santé. J'ai un petit peu poussé les extrêmes et ça m'amusait, en fait. Ça m'amusait de faire tes méditations. Ça m'amusait de faire de la cuisine végétale. C'était pour moi un... c'était fun, en fait, dans cette période qui était pourtant pas très fun. Mais c'était une manière d'amener de la lumière au quotidien.
Vous étiez tous confinés ici,
on était tous confinés ici. Okay. Ouais, tout à fait.
Et l'espace a dû, j'imagine, être fermé pendant un temps.
Oui.
Ok. Et est-ce que tu as fait comme d'autres restaurateurs de la cuisine qui étaient livrés
Exactement. Ouais. On a fait des repas emportés. À un moment, on a même fait à manger dans les chambres. On s'est toujours. J'ai toujours voulu garder de l'activité pour garder l'activité pour les collaborateurs. Pour garder un pied dans, pour ne pas décrocher, en fait. C'était ça, ma peur. C'était décrocher, être fermé, accepter que rien ne se passe. Ça, je ne voulais pas. Donc, on a continué à faire ce que l'on pouvait. Et à côté de ça, à prendre soin de soi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a, et c'est ce qui m'a transformé. C'est parce que ça m'a ouvert, voilà, c'est plein de monde, c'est plein de talents, c'est des gens qui m'ont apporté de la lumière, comme toi, tu as pu m'en apporter au cours des méditations, mais comme d'autres personnes, que ce soit sur la cuisine, que ce soit sur des aspects peut-être un peu plus spirituels ou sur des ouvertures. En fait, c'est le temps de s'arrêter et de se dire, en fait, il y a autre chose que notre travail au quotidien. Et c'est là, en fait, que j'ai, voilà, je me suis transformé, peut-être, tu as utilisé ce mot, c'est vrai, parce que je suis plus la même personne qu'il y a 4 ou 5 ans. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça, il faut l'assumer aussi. C'est pas toujours simple, même auprès des équipes. J'ai changé même ma manière de fonctionner avec les équipes. Même mon management a changé. Ma manière de manger a changé. Ma manière de me dépenser a changé. Mon physique a changé. Tout a changé. Et ça, faut l'assumer. Quand on est un papa, qu'on est un mari, qu'on a 2 enfants, faut l'assumer parce que forcément, ça génère des petites moqueries, des sourires, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Je connais bien ce genre de...
Donc ça, il faut l'assumer. Mais c'est cool, aujourd'hui, j'en suis très heureux.
Alors ça m'intéresse beaucoup parce que, tu sais, souvent, on reproche aux gens qui prennent soin d'eux-mêmes de s'intéresser finalement qu'à eux. Et moi, j'ai l'impression que lorsque le soin de soi n'est pas... Parce qu'il y a 2 manières, en fait, de prendre soin de soi. Il y en a une qui va conduire à forcément s'occuper des autres. C'est-à-dire qu'une fois que tu te sens mieux, bah, tu peux te mettre au service du collectif. Et puis, il y en a une autre qui, effectivement, va conduire à s'intéresser qu'à sa personne. Mais il me semble juste de rappeler que c'est pas superficiel de garder des temps pour soi, parce que sinon on n'a pas de temps de récupération et on peut plus donner en fait, que ce soit à sa famille, à ses proches ou même à son entourage collectif au travail.
Alors, c'est pas du nombrilisme en fait, prendre soin de soi, c'est tout simplement s'aimer, se faire confiance, c'est s'aimer, aimer son corps physique, c'est aimer ses pensées, c'est pouvoir accepter ce qu'on est pour pouvoir, comme tu dis, après aider les autres. Et bien entendu, que moi j'ai ça en moi. Ce que j'adore, c'est aider, apporter de l'amour aux personnes qui sont autour de moi. Mais pour faire ça le plus, pour apporter de la lumière et pour donner tout ce dévouement au quotidien, il faut être ancré, il faut être soi, il faut savoir ce qu'on est. Et il faut s'aimer. Et apprendre à s'aimer, et je pense que c'est pareil pour toi et c'est pareil pour tout le monde, c'est pas si simple en fait.
Non, puis je pense que c'est jamais une destination. Enfin,
non.
Tu vois, c'est un. Moi, il y a des jours évidemment où ça fonctionne pas du tout.
Mais non, c'est un travail au quotidien et des fois on est au fond et des fois on a l'impression d'être hyper lumineux et puis le lendemain tout s'est effondré et c'est continuel et c'est un recommencement au quotidien. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de faire ce boulot, de s'apprécier, de s'aimer, d'être juste avec soi-même pour pouvoir donner aux autres. Au final, c'est ça qui est important.
Alors, sur le plan de l'alimentation, parce que c'est une clé très importante ici. Mmh. Moi, là, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast avec toi, je n'ai pas encore goûté la cuisine gastronomique.
Oui.
Mais j'ai déjà fait l'expérience du petit déjeuner qui
oui.
est vraiment... je dois le dire, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable ailleurs. Et pourtant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de fréquenter plein d'établissements étoilés. Et je n'ai jamais fait une expérience pareille dans le jusqu'au boutisme du choix du tout maison, du tout local. On ne trouve pas à ta table des framboises en hiver ou de la mangue qui vient de l'autre bout du monde. Tous les laits qui sont transformés en yaourt, que ce soit des laits végétaux ou bien des laits issus de l'animal,
oui.
ils sont tous faits maison.
Oui.
Les granolas sont faits maison, mais tu vas même beaucoup plus loin. Et je voudrais que tu m'expliques comment tu as été initié en fait à cette histoire de fermentation et d'activation des aliments.
Alors, j'ai eu la chance de travailler avec une personne qui s'appelle Shira, qui m'a vraiment expliqué, montré quels étaient les possibles. Ça, c'est un pilier important. Un deuxième pilier important, c'était mon choix personnel de me couper complètement de l'alimentation industrielle ou agro-alimentaire.
Donc, on ne trouve pas, par exemple, au petit déjeuner de ton hôtel, on ne trouve pas de céréales en petits paquets.
Non. Mais non. Et en plus de ça, on a un troisième pilier qui est important, et c'est le zéro plastique dans la maison, auquel on tient beaucoup. C'est un exercice qui est difficile, parce qu'on a du plastique partout aujourd'hui, dans nos vies. Et enlever le plastique, c'est pas simple non plus. Donc, c'est se couper des conditionnements, c'est ne pas acheter ailleurs, chez un fournisseur qui va nous mettre quelque chose sous plastique, en fait. Donc, c'est se dire comment on fait pour faire maison avec uniquement des produits locaux, de saison, mais ça, c'est une évidence. Ça devrait même plus exister. Voir une tomate et une framboise dans un supermarché
pourtant,
en hiver, ça ne devrait pas exister. Et aujourd'hui, il faut savoir que ça existe encore.
Et même dans des lieux très prestigieux.
C'est ce que j'allais dire. Mmh. Dans des palaces en France. On trouve encore des framboises ou des tomates en plein hiver. C'est une aberration, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne veux pas juger. J'aime pas ça.
Bah, souvent, quand moi j'en discute avec des palaces, justement, et que ça me choque, souvent les chefs sont d'accord avec moi. Mais la pression, en fait, vient, d'après ce que j'ai compris, en fait, viendrait des clients qui réclament ces produits, qui ont encore l'impression que le luxe, c'est de manger des framboises, en fait, dans un granola le matin, ou bien de manger des haricots verts du Kenya, en fait, à table. Et Moi, j'ai beaucoup essayé en fait de faire passer des messages de pédagogie lorsque j'ai eu l'occasion en fait de travailler avec des lieux comme ça, en disant mais en fait ça n'est pas garantir la santé de la personne et la mettre dans un état de bien-être que de lui proposer un légume ou un fruit qui a voyagé de l'autre bout du monde, qui est sans doute pesticidé parce qu'on ne sait pas du tout dans quelles conditions on a réussi à faire pousser ce fruit, voilà. Quand bien même il serait labellisé bio, il arrive en barquette, en plastique, enfin, pour moi, c'est le non-sens total d'imaginer que ça pourrait être encore luxueux que de proposer cela. Mais c'est vrai que c'est lent et ça demande... L'idée, c'est pas de contraindre les gens en leur disant bah, « vous pourrez plus jamais manger ces fruits-là », mais c'est plutôt de se dire... Comment est-ce qu'on peut leur donner du plaisir avec quelque chose? Parce que là, c'est là où tu réussis. C'est que ce matin, je mets au défi n'importe quelle personne qui vraiment est rétive et résistante à l'idée de changement dans son alimentation, qui se dit « Ah, il nous gonfle, c'est bobo, etc. » de venir à la table de ton petit déjeuner et de ne pas l'apprécier. Parce qu'il y en a pour tous les goûts.
Oui.
Il y a des choses très gourmandes, il y a des choses plus... On va dire, c'est pas qu'elles sont plus saines, parce que tout est sain, de toute façon, dans ce que tu proposes, mais il y a des choses qui sont peut-être plus faibles en calories.
Oui.
Mais on a le choix de manger comme on aime, en fait, avec tous ces produits-là.
C'était le but de ce petit déjeuner, c'est de faire plaisir à chacun, qu'on soit gourmand, qu'on soit dans une alimentation plutôt santé ou bien-être, ou même de régime, ou de sans sucre, ou de sans gluten, ou de sans je ne sais pas quoi.
Oui, il y en a pour que, tout le monde. Et tous les. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans des dogmes ou des régimes, il y a des problèmes de santé aujourd'hui qui exigent que certains évacuent ou excluent certains aliments. Et même des fois pour des raisons qui sont pas liées en fait à juste à une maladie, mais ça peut être parce que on a remarqué que lorsqu'on mange salé le matin, on se sent mieux le reste de la journée, on a plus d'énergie. Ça peut être parce que on a remarqué que quand on mange plus de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ben on a plus d'énergie ou en tout cas plus de concentration, de facilité à se concentrer. Donc c'est l'idée, c'est pas d'exclure, mais c'est de permettre à ceux qui en ont envie de trouver l'aliment qui leur convient.
Mais oui, mais c'est ça en fait. Tout à l'heure, tu as parlé d'une notion, tu as dit luxe. Le luxe aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, mais c'était plutôt pour moi hier, c'était d'aller dans un établissement et on y va, on a beaucoup d'argent, ça nous permet d'avoir des framboises en hiver, d'avoir des tomates en hiver, d'avoir... de la cosmétique sous plastique, sous carton, réemballée, je ne sais combien de fois dans sa salle de bain quand on arrive, avec des chaussons emballés dans du plastique, avec, on connaît le système par cœur. Et c'est un système de consommation, c'est un système polluant, et on appelle ça du luxe. Mais le luxe, pour moi, c'est justement de venir dans une maison comme la nôtre. C'est pas une question d'argent. C'est une question de se dire, je vais aller au petit déjeuner, à la butte, et le luxe que j'ai, c'est de pouvoir m'alimenter de manière saine et de la manière dont j'ai envie, avec une variété de produits, avec des produits qui sont différents, avec des produits qui sont sans gluten, sans sucre, sans tout ce qu'on veut. En fait, c'est le choix, le luxe, c'est d'avoir le choix d'être là, de pouvoir se faire du bien, et en plus, sans impact sur l'environnement.
Oui,
et c'est
ça le luxe, en fait. Il y a aussi des très bons croissants avec du gluten dans ton petit déjeuner qui sont proposés qui sont super bons.
Voilà, avec une farine qui est quand même tracée. Mm. Et c'est ça le luxe. Le luxe, c'est de choisir ce qui est bon pour nous, de choisir ce que l'on veut être au quotidien, en fait. C'est pas d'aller manger des fraises, des tomates et d'avoir la plus belle cosmétique dans une chambre quand on se déplace. C'est plus ça pour moi le luxe, en fait.
Donc, tu m'as parlé de Shira, de ton goût aussi personnel pour cette alimentation végétale.
Oui.
Et comment t'as avancé ensuite? Parce que aujourd'hui, il y a énormément de produits fermentés dans ta signature, à la fois à travers... Alors déjà, j'aimerais juste que tu rappelles ce que c'est que la fermentation, parce que je pense qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire que ce procédé et ce que ça apporte sur le plan
alors, c'est
de
vrai
la
que,
santé.
Alors moi, Lily, j'aime pas appeler ça fermentation, personnellement, parce que la fermentation fait peur. Quand on dit fermentation, les gens font un pas en arrière. Or, on a tous mangé du fromage. boit du vin, on boit de la bière. Tout ça, ce sont des ferments. Et on mange fermenté, les gens mangent fermenté dans leur quotidien. Aujourd'hui, j'appelle ça plutôt de l'alimentation vivante, parce que c'est de la magie. En fait, c'est utiliser uniquement ce que nous offre la nature, avec ces bactéries, et qui nous permet de fermenter, donc d'acidifier, de foisonner, d'aérer des crèmes, de faire pousser un champignon sur un fruit ou sur un aliment, de faire tout ça, c'est de la fermentation. Ce sont des techniques ancestrales qui existent dans le monde entier depuis des millénaires, que l'on a oublié parce qu'on nous a proposé une autre alimentation, un autre système d'alimentation complètement industriel et apertisé, qui au final est une catastrophe pour notre organisme. Et aujourd'hui, réinclure ces modes de conservation, ça nous fait du bien, cette fermentation à notre organisme, c'est la microbiote, c'est la santé, c'est la digestion.
Alors donc ça, je te coupe juste pour l'expliquer, c'est que il se trouve que dans notre système digestif et dans nos intestins, on a des millions de bactéries qui sont propres à chacun.
Oui.
Notre microbiote, c'est notre signature. Aujourd'hui, on peut même l'analyser, savoir exactement ce qu'on a à l'intérieur. Et parmi ces bactéries, on en a un grand nombre qui sont essentielles à notre survie. De temps en temps, ce microbiote, il peut être un peu plus faiblard.
Oui. À cause de notre alimentation.
À cause de notre alimentation, parce qu'elle a été trop salée, trop sucrée, trop riche, trop grasse. Et que du coup, en fait, on ne développe plus les bactéries qui nous permettaient d'avoir un système immunitaire puissant.
Oui.
Et de filtrer potentiellement,
Et d'assimiler aussi.
Exactement. Et donc, du coup, pour pouvoir booster ce microbiote, lui, il est exactement comme un yaourt qui serait en fermentation permanente.
Oui.
Selon la manière dont on va s'alimenter, on va pouvoir activer, faire en sorte que c'est comme un muscle qui serait plus vivant, plus énergisant, enfin plus énergisé plutôt, pas à travers les petits ajouts de produits fermentés correctement. Quoi.
Exactement, au quotidien. Et ça, toute cette fermentation, c'est un pré-travail. C'est pour ça que quand on mange fermenté, par exemple, on n'a pas ce coup de pompe qu'on peut avoir après un repas, par exemple. On n'a pas, tu sais, même dans la restauration gastronomique, étoilée ou que sais-je, des fois, on va passer un moment au restaurant, puis on va sortir de table et on va être ballonné, on ne va pas être bien, on ne va pas bien dormir la nuit. Mais en fait, on se fait du mal. Mais on peut bien manger aujourd'hui de manière, alors appelons ça gastronomique, avec, en intégrant cette alimentation vivante qui va nous permettre de digérer ou de prédigérer ou d'avoir beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'efforts à faire pour assimiler ce que l'on mange et de se sentir beaucoup mieux et d'avoir de l'énergie et de manger en se faisant du bien avec des plantes, avec moins de sucre, avec des bactéries tout simplement en fait. Et ça, et on n'a pas à en avoir peur. Souvent, la fermentation fait peur. Les gens, quand souvent, on fait goûter, ils m'ont dit « mais je ne veux pas être malade ». Mais non.
Ouais, moi, c'est pas que j'en ai peur, mais j'ai participé à pas mal d'ateliers sur ce sujet. J'ai des bouquins sur le sujet et je t'avoue que jusqu'à ce que tu m'aies fait goûter, enfin, ce que j'ai mangé avec toi hier, souvent, moi, jusque-là, j'avais trouvé que c'était quand même monogoût, c'est-à-dire plutôt un goût de vinaigre, très acide, souvent trop salé. Et oui, cette acidité, en fait, très forte en bouche, qui passe très bien quand on est en Corée, mais que je trouve un peu plus difficile. Et ce qui m'a étonnée, c'est la subtilité en fait des différentes crèmes que tu m'as fait goûter, en particulier ton miso.
Oui.
Et puis aussi là ce matin dans les crèmes végétales.
Oui.
J'ai jamais encore réussi à goûter ce type de préparation végétale où il y a un tout petit peu d'acidité, mais très peu, alors que d'habitude, c'est hyper acide.
Parce qu'on a le marqueur en tête, nous, des goûts, et de l'équilibre, de la gourmandise. Et c'est des choses, traditionnellement, chef de cuisine, on l'a appris et on a ça. On a cette partie traditionnelle de cette gourmandise qu'on retrouve en France, principalement. C'est vrai que la cuisine française, elle a été vue à travers le monde comme quelque chose de brillant. On a gardé ça. Et en fait, on l'adapte, on la mélange. On fait une bonne balance entre cette tradition et cette fermentation qui nous permet d'adoucir cette acidité, de diminuer les taux de sel, d'utiliser la fermentation comme des condiments, comme des petits... C'est une, comme si on avait une grande bibliothèque de goûts, parce que la fermentation génère des nouveaux goûts. Et c'est ça, ce luxe, c'est d'arriver, nous, en tant que cuisiniers, devant cette bibliothèque, de voir toutes ces préparations et de choisir comme si on allait choisir un livre, en fait. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est sans fin.
Ouais, moi là, par exemple, tu m'as fait goûter hier des légumes fermentés qui sont présentés, en fait, comme si on était en train de manger un apéro avec de la charcuterie.
Oui.
On a une pellicule blanche d'un champignon qui est à l'extérieur, qui ressemble un peu à une croûte de fromage.
Complètement.
Mais une croûte de fromage hyper douce et où il y a vraiment le moelleux, fait. Et en bouche, donc en particulier la carotte, le panais. Là, on voyage complètement parce que ça vient vraiment apporter un goût qui n'existait pas jusqu'alors. On retrouve quand même le légume, mais avec une sensation de saucisson ou de saucisse séchée et de fromage. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu surprenant, mais j'ai trouvé ça délicieux. Et l'autre aliment qui m'a bluffé ce matin, ce sont tes miels activés.
Oui.
Parce que je pensais que ça n'aurait aucun intérêt sur le plan gustatif. C'est-à-dire, on peut... Tu vois, c'est comme les eaux dynamisées, les machins. Bon. Et donc, le miel activé, là, j'ai été soufflée parce que j'en ai pris un avec du fenouil.
Oui, fenouil, ouais, fenouil du jardin.
J'ai rarement mangé, en fait, un miel aussi délicieux. Et je suis ravie si ça apporte des choses en plus à mon corps. Mais moi, ce qui compte d'abord, c'est le goût. Mm-hmm. J'aime pas quand l'intérêt du repas, il est uniquement pour mon intestin. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du plaisir.
En fermentation, on a des goûts, on a un rapport au goût qui est complètement différent parce qu'on a des complexités, on a des nouveaux goûts qui arrivent. Et ça, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile au départ pour nous. Parce que quand on a commencé à travailler sur la fermentation, on s'est retrouvé avec des goûts, avec des textures qu'on ne connaissait pas. Et on savait pas bien comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, en fait, et comment les maîtriser. Donc, c'est long. L'apprentissage de cette fermentation en cuisine, il est long. Il faut le comprendre, il faut du temps, il faut... C'est un petit peu comme un sport, en fait. C'est un petit peu sûrement comme apprendre à méditer aussi. C'est quelque chose où c'est une culture, c'est un savoir et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et cette complexité de goût dont tu parles, elle est intéressante parce que elle ouvre beaucoup de possibles en fait pour nous cuisiniers. Et puis il y a autre chose dans cette fermentation dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est que l'énergie devient un vrai problème dans nos métiers. Utiliser du gaz, utiliser de l'électricité, c'est coûteux et ça va se raréfier certainement. Donc aujourd'hui, on a un chemin à faire sur comment on cuisine demain avec le moins besoin d'énergie possible. Et ça, la fermentation nous l'offre parce que c'est uniquement de la fermentation à des températures qui sont extrêmement basses en général, autour de 40 degrés, voire 60 degrés pour des amazake. Et puis ça nous oblige, c'est une alimentation qui nous oblige à prendre le temps. Un miso, il ne va pas se faire en 10 minutes, ou en 15 jours, ou en 3 semaines. Un miso, il va se faire en 6 mois. Donc, c'est apprendre à patienter, apprendre à conserver, apprendre à prendre le temps, apprendre à laisser faire la nature. Et au final, tout ça, c'est un petit peu une leçon que nous donne la nature, en fait, de dire, voilà, si vous voulez manger ça à tel moment, il va falloir patienter.
On parlait d'énergie dans la cuisine. Moi, il y en a une sur le plan humain qui m'a beaucoup surprise hier. C'est que j'ai visité énormément de cuisines de chefs. Alors, pas toutes, mais quand même pas mal. Mmh. Et souvent, c'est un endroit où ça hurle, où il y a une grande tension. Et même quand ça crie pas, on sent une tension incroyable avec beaucoup de transpiration. Et là, hier, j'ai été surprise parce que il y avait un grand calme. Même au moment du service, les plats partaient, on était en train de prendre l'apéro tous les deux. Bon, ton second veillait aussi à ce que tout se passe bien. Mais j'étais très surprise par le calme de ton équipe et ça, tu y tiens beaucoup. Ta particularité, c'est que toi, tu n'as pas fait tes classes dans des cuisines, mais cet héritage, enfin, qui n'est pas un héritage parce que vous avez racheté, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ta femme ait ce lien avec cette maison t'a poussé à devenir chef, alors que ce n'était pas forcément ton chemin.
Non, et je me considère aujourd'hui pas comme un chef. J'ai jamais voulu professionnellement rentrer dans une cuisine parce que j'ai toujours été marqué par les cuisines où j'ai pu faire quelques stages.
Parce que tu as fait une école d'hôtellerie.
J'ai fait une école hôtelière de Strasbourg, donc oui, j'ai fait quelques stages. Et puis quand on est dans la profession, on entend, on sait.
Un endroit où il peut y avoir beaucoup de violence.
Exactement. Et c'est quelque chose. J'ai toujours eu énormément de mal avec ça et j'ai jamais voulu faire de cuisine à cause de ça. Parce que j'aimais pas cette, appelons ça violence. C'est dur. C'est un milieu qui me plaisait pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je pouvais faire de la cuisine. Moi, je pouvais devenir peut-être chef de cuisine, mais avec un tempo, avec une bienveillance des collaborateurs qui soient la plus apaisée et la plus bienveillante possible, et d'obtenir au final même des meilleurs résultats avec cette manière de faire. Aujourd'hui, la bienveillance, le respect de l'humain, la connaissance de l'autre, elle est importante au quotidien de notre maison, qu'on soit en salle, qu'on soit en cuisine, qu'on soit au spa, qu'on soit dans n'importe quel service. J'estime que là, on vit tous une période qui est compliquée autour de nous, ça bouge beaucoup, les éléments bougent beaucoup, le monde économique est dur, la vie est dure. Moi, je trouve personnellement que je la trouve vraiment dure. Même pour nos enfants, je la trouve dure. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être capable d'apaiser tout ça et d'amener au travail, parce qu'on a tous besoin de travailler, mais la plus grande sagesse possible, le plus grand respect possible, avec la plus grande bienveillance. Et tout se passe bien. Et quand on respecte l'humain et quand on s'occupe des uns et des autres, quand on apporte, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est tout simplement quand on arrive à apporter de l'amour aux autres, les choses se passent de manière différente.
Il y a cette dimension humaine qui est très importante et aussi dans le respect en fait de la culture locale, de travailler avec des producteurs qui travaillent différemment, soit en agriculture biologique, soit en agriculture raisonnée.
Oui.
Tu as fait toi-même ta propre boulangerie qui est ouverte en fait à tout public,
Donc
pas uniquement pour tes clients, mais pour que tout le village puisse en profiter.
Oui.
Dans cette idée de respecter en fait le monde paysan autour, là on est dans une région, on est dans le Finistère, on a la vue sur la mer pendant qu'on se parle, mais aussi sur des champs. Il y a énormément de champs parce que on est au cœur de cette Bretagne où qui nous nourrit, qui nourrit une large partie de la France avec ses artichauts, ses choux, etc. Et c'est vrai que actuellement on entend une colère très forte du monde agricole, où la plupart des agriculteurs vivent très mal, très modestement et de façon très dure. Comment est-ce que toi, tu travailles avec ces paysans? Qu'est-ce que tu entends de leur part? Et quelle est ta vision, en fait, dans cette collaboration ensemble pour les soutenir? Comment ça se passe, ce tissu-là, entre vous?
Alors, ce tissu-là, entre nous, il est... Je crois que, d'ailleurs, on doit d'abord s'entourer de talent. Et tous ces gens ont du talent, tous ces gens qui sont autour de nous. Qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient marins-pêcheurs, qu'ils soient... Et les marins-pêcheurs, c'est aussi une sorte... C'est un peu des agriculteurs.
Bien sûr.
Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que... Et ce que je ressens, c'est qu'on leur a donné un modèle, comme on nous a donné un modèle pendant 30 ou 40 ans, ces dernières années. Je ne juge pas ce modèle parce qu'il a permis à la Bretagne d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il a été important. Il a permis à la Bretagne de monter de niveau, tout simplement.
Sur le plan économique,
il faut savoir qu'il y a 40 ans de ça, quand on allait dans des fermes en Bretagne, il n'y avait pas forcément de l'eau et de l'électricité, quoi. Donc ça a permis de passer à autre chose, de faire évoluer économiquement la Bretagne, pardon. Mais ce que je ressens vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y a une peur de changer, Il y a une peur du modèle, d'un nouveau modèle économique. Le modèle économique qu'on propose à nos paysans aujourd'hui, il n'est pas supportable. On ne peut pas voir ces gens travailler 17 heures par jour, 7 jours sur 7, ne pas prendre de vacances. C'est pour une somme modique à la fin du mois. Ils vont gagner 900, 1000, 1200, 1400 euros. C'est rien, en fait.
Pour ceux qui s'en sortent le
pour
mieux.
Pour ceux qui s'en sortent le mieux. Et c'est juste pas décent. Ce sont des gens qui nous nourrissent, en fait. Et on oublie ça. Et tout le monde oublie ça, en fait. On se nourrit grâce à eux. Et c'est eux qui devraient gagner des sous. C'est nos agriculteurs qui devraient gagner de l'argent. Et aujourd'hui, moi, de ma fenêtre, je me dis que en proposant un autre modèle d'agriculture peut-être plus raisonnée, avec des parcelles peut-être plus petites et des structures plus petites, en produisant moins, ils pourraient vendre de manière plus qualitative et plus chère, et puis vivre par eux-mêmes sans dépendre de coopératives ou de choses comme ça.
Donc toi, ce que tu imagines, en tout cas, c'est que finalement, en tant que consommateur, on accepte de payer un peu plus cher pour un peu moins,
oui.
C'est-à-dire qu'on apprenne tous à manger peut-être de moins grandes quantités de choses qui sont plus coûteuses que ce qu'on imagine, parce qu'on n'a pas la notion du vrai prix, du vrai coût que ça coûte à un producteur de faire un kilo de poire, par exemple.
Oui.
Mais du coup, ça va nous demander de nous alimenter un petit peu différemment à l'avenir pour que... c'est sûr que si on mange des quantités de viande gigantesques ou bien des produits qui ne sont pas de saison, ça va nous coûter super cher. Alors que peut-être si on inverse... C'est ça ton idée, c'est...
Ben ouais, c'est ça mon idée. C'est qu'aujourd'hui, on doit s'alimenter de manière la plus juste, la meilleure possible. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Quand on pense que n'importe quelle personne va aller s'acheter une bagnole à 30 000, 40 000 ou 50 000 balles, mais ils vont pas vouloir mettre 1 euro de plus pour payer un kilo de carottes. Enfin, il y a un truc qui va pas, en fait. Les gens ont pas compris. C'est quoi l'important, en fait? C'est de faire marcher sa machine. C'est nous, la machine, en fait. De se nourrir avec bienveillance, de faire fonctionner une économie, qu'elle soit la plus circulaire possible, la plus respectueuse possible. Aujourd'hui, l'alimentation est passée comme quelque chose d'optionnel dans les familles, en fait. On peut, je crois qu'on en a échangé, on peut aller chez des gens qui gagnent des 1000 et des 100, on ouvre le frigo, et en fait, il y a des trucs sous plastique, sous barquette, et qui sont même pas bons, qui sont remplis de sel, qui sont industriels.
Oui, et pourtant, l'alimentation coûte de plus en plus cher, et donc il y a ceux qui ont les moyens et qui pourraient faire effectivement des efforts, mais il y a ceux qui n'ont pas du tout les moyens et qui n'ont pas les moyens de la voiture, n'ont pas les moyens de rien du tout, et se retrouvent en fait aussi conduits par l'industrie agroalimentaire à aller toujours vers les mêmes produits qui sont peut-être plus faciles, plus rapides, etc.
Je sais, c'est peut-être une utopie ce que je veux dire, mais on a quand même le moyen. Il faut pas oublier la notion de partage. On l'a oublié, cette notion de partage. Les jardins partagés, il y a plein de choses à faire. Les pays nordiques l'ont fait, ils le font. Il y a des villes qui le font. Il y a des jardins où on peut aller. Les habitants peuvent aller cueillir des légumes, partager ou même prendre des légumes qui sont déclassés. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on va faire. On peut aller se balader là demain ou après-demain en vélo, et tu vas voir que dans des champs, il y a des endroits où tu vas retrouver des potimarrons qui datent du mois d'octobre, qui ont pas été utilisés parce qu'ils sont déclassés. En fait, on pouvait les manger, ces choses-là. Sauf que l'industrie dit, non, faut pas les prendre parce qu'ils sont pas ronds, parce qu'ils ont pas la bonne couleur, parce que si, parce que ça, c'est du gaspillage, en fait. On nous dit que les peuples manquent de nourriture, mais on regarde le gaspillage alimentaire qui est fait au quotidien avant que ça arrive dans nos assiettes. Enfin, tout ça, je crois qu'il faut remettre de l'ordre, mais c'est à cause de cette industrialisation, à cause de cette alimentation, à cause de cette manière d'aller acheter, de faire ses courses dans des grandes surfaces, ça, où tout doit être beau, tout doit être joli. Je pense que là, on s'est trompé et on peut revenir en arrière. Et de toute manière, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et comment on va faire demain? Comment on va faire pour nourrir le nombre de personnes qui est sur la planète? On va être obligé, nous tous, de réduire. On est obligé de ralentir, on est obligé de déconstruire. Il va falloir arrêter de manger de la viande tous les jours. Il faut arrêter de manger du poisson tous les jours. Il faut diminuer les quantités. Ce soir, tu vas venir manger à la table et tu verras que ta portion de poisson, elle va faire 40 grammes. C'est pas pour, c'est pas que je veux pas te donner à manger. C'est juste qu'il faut être raisonnable, en fait. Et qu'on peut se nourrir avec autre chose. On sait aujourd'hui, les océans, ils se vident. Moi, je travaille qu'avec de la petite pêche côtière, des gens qui partent à la journée et qui ponctionnent, en fait. Et je réduis les quantités de poissons, de viande. Mais on n'a plus le choix. Si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, demain, on a tous les deux des enfants. Qu'est-ce qu'on leur donne demain?
Et ça, sur le plan pédagogique, t'arrives à le faire passer avec le plaisir, justement. C'est-à-dire que plutôt qu'on sente la restriction, parce qu'on n'aime pas avoir moins de manière générale, il faut que pour accepter d'avoir moins, il faut qu'il y ait eu un bénéfice gigantesque. Toi, par exemple, ton bénéfice, c'est de sentir que tu te sens mieux dans ta peau, donc ça te donne envie de continuer à prendre soin de toi, etc. Oui. Et il y a un cercle vertueux qui se met en place. Moi, ce que j'ai vraiment aimé ce matin, ça a été le plaisir, en fait, vraiment des goûts. C'est cette pédagogie-là que tu essayes de mettre en place avec tes clients.
Oui, ce que tu as passé ce matin, c'est, moi j'appelle ça une expérience et une découverte. Tu as vécu une expérience, tu as eu des nouveaux goûts, tu as découvert des produits et c'est super intéressant en fait. Et tu t'es nourri, tu as mangé et tu as assez mangé et tu t'es senti bien après. Et ce qu'on propose par exemple à la table, au dîner, eh ben, ça va être exactement la même chose. On va avoir 7, 8, 9, 10 plats, peut-être avec des portions un peu plus petites, mais avec de la découverte, avec de l'expérience, avec des propositions, avec des nouveaux goûts. C'est un voyage, en fait. Et par ce voyage, je ne veux pas convaincre qui que ce soit. Je veux juste dire, ben voilà, il y a une autre possibilité, c'est celle-là. Est-ce que vous la prenez ou est-ce que vous ne la prenez pas? Qu'est-ce qu'on souhaite, en fait? Mais en tout cas, vous êtes venu manger. Vous vous êtes fait du bien, vous avez fait du bien à tous les producteurs que l'on a autour de nous, vous avez respecté la planète, vous nous avez respecté, parce que vous avez respecté notre travail, on a tous passé un bon moment ensemble, et c'est juste magique en fait.
Bah, merci Nicolas.
Grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous? Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui ?